Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix d'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi pour un second mandat. En RDC, le parti de Jean-Pierre Bemba appelle la CPI à mettre fin à la confusion autour de l'arrêt pour subordination de témoins, cause de l'invalidation de sa candidature à la présidentielle. Un lycée a été attaqué au Cameroun anglophone par des hommes armés, 5 élèves sont portés disparus. Aux États-Unis, début de l'audition de Brett Kavanaugh devant le Sénat pour la confirmation de sa nomination à la Cour suprême. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Mali, le nouveau président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a prêté serment au cours d'une audience solennelle de la Cour suprême. Ibeka a été réélu avec 67,16% des voix lors du deuxième tour de l'élection présidentielle le 12 août dernier. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, veuillez venir devant le...
C'est à la suite de la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant Ibeka comme président de la République et le réquisitoire du procureur de la Cour suprême que Noum Tapili, président de la Cour suprême, appelle Ibeka à prêter serment. Ibrahim Boubacar Keïta, président réélu.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi.
Noum Tapili renvoie par la suite Ibeka dans l'exercice de ses fonctions en ces termes.
La Cour déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République du Mali.
Après sa décoration, Ibeka a fait un discours à la nation appelant les Maliens à l'union.
Je vous appelle tous en ce moment solennel à nous regarder les uns les autres comme les frères et sœurs que nous sommes, à s'attacher à notre but commun, un Mali où chaque génération a accompli le devoir sacré donné à la génération suivante les ailes et l'élan de ses propres défis.
Les festivités de cette investiture se sont poursuivies au niveau du monument de l'indépendance où Ibeka a déposé une gerbe de fleurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition a appelé à une journée de manifestation le 29 septembre pour protester contre la gestion du pouvoir de Roch Marc Christian Kabore. La politique du chef de l'État burkinabé est jugée chaotique par les opposants depuis son accession au pouvoir en novembre 2015. Cette manifestation, qui se tiendra sur l'ensemble du territoire national, est la première du genre organisée par l'opposition depuis l'élection du président Kabore. Depuis son arrivée au pouvoir, son régime fait l'objet de vives critiques, y compris dans son propre camp. La polémique enfle au Bénin au lendemain du vote par le Parlement du nouveau code électoral qui impose notamment une caution de 250 millions de francs CFA aux candidats potentiels de l'élection présidentielle. Elle était jusqu'à présent de 15 millions de francs CFA. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Au Cameroun, 5 élèves d'un lycée en zone anglophone sont portés disparus depuis hier après l'attaque de leur établissement par des hommes armés. L'attaque s'est produite le jour de la rentrée scolaire dans le lycée de Bafou, une ville proche de Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest. Deux élèves et le proviseur, gravement blessés, ont été relâchés. Dans les deux régions anglophones du Cameroun, un boycott des écoles a été décrété par des séparatistes qui sont en conflit violent avec l'armée. Le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler une écrasante majorité des sièges lors des élections législatives de lundi. Plus de détails avec Bagasikoura.
Après dépouillement de 70% des bulletins, la coalition menée par le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, obtient 75% des suffrages. Deux autres partis soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5% et 7% des voix. Le seul parti d'opposition autorisé à participer, le Parti démocratique vert, n'obtient que 4,5% des voix, soit moins que le minimum de 5% requis pour obtenir au moins un siège à la Chambre basse. Les résultats provisoires sont attendus dans la soirée. Les résultats définitifs, eux, doivent être publiés le 16 septembre. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour ces législatives. 53 sièges étaient en jeu sur les 80 députés de l'Assemblée nationale. Les 27 sièges qui restent sont restés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et des organisations spécifiques.
En Éthiopie, au moins 12 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dans le district d'Izara, dans le sud-ouest du pays. Ce glissement de terrain a été provoqué par des fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Au Botswana, au moins 90 éléphants ont été retrouvés morts ces dernières semaines. Leurs défenses d'ivoire ont été toutes méthodiquement arrachées. Ce décompte a été réalisé par l'ONG Éléphants sans frontières avec le ministère botswanais de la faune sauvage et des parcs nationaux. En Algérie, le ministre de la Santé, Mokhtar Azbelaoui, a annoncé que l'épidémie de choléra est désormais maîtrisée. Apparue le 7 août dernier, l'épidémie a tué 2 personnes. En Égypte, un homme a été arrêté après avoir lancé un engin explosif artisanal près de l'ambassade des États-Unis au Caire. L'incident n'a fait aucun blessé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Ici aux États-Unis, coup d'envoi ce matin devant la commission juridique du Sénat du processus de confirmation du candidat de Donald Trump à la Cour suprême. S'il est confirmé, Brett Kavanaugh va remplacer le juge Anthony Kennedy qui a pris sa retraite. Nous écoutons les explications de Morgan Guerriec.
Brett Kavanaugh a promis d'être un juge impartial. Dans son introduction, il a déclaré qu'un bon juge doit être un arbitre neutre et impartial. « Je ne tranche pas sur les dossiers selon mes préférences personnelles ou politiques », ajoute le juge âgé de 53 ans, qui brigue un siège à vie à la Cour suprême. Le Sénat a le dernier mot sur les nominations à la Cour suprême, qui tranche aux États-Unis sur les grands sujets de société, comme l'avortement, les lois sur les armes, le mariage pour tous ou le système de santé. Les démocrates ont demandé sans succès un report de l'audience pour étudier les 42 000 pages sur Brett Kavanaugh que le Sénat a reçues hier. Malgré la vive opposition des démocrates, sa confirmation semble pratiquement assurée, les républicains étant majoritaires au Sénat. Le juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite après 3 décennies à la Cour suprême, jouait un rôle de balancier entre 4 conservateurs et 4 progressistes. Brett Kavanaugh devrait ancrer fermement la Cour suprême du côté conservateur.
En Afghanistan, les talibans ont annoncé la mort du fondateur du réseau Haqqani. Jalaluddin Haqqani avait fait ses armes contre les soviétiques et puis rejoint les talibans et fondé le groupe insurgé le plus redouté d'Afghanistan. Jalaluddin Haqqani était une figure clé du conflit qui ravage le pays depuis 40 ans. Direction la Syrie, où au moins 9 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des raids russes contre la province d'Idleb, dernier bastion des insurgés. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions russes ont pris pour cible des secteurs contrôlés par les rebelles ou dominés par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces du régime dans la province de Latakia. Moscou accuse les rebelles d'être à l'origine de ces frappes qui ont touché une base militaire russe. Le régime de Bachar al-Assad massait depuis plus d'un mois des renforts aux abords de la province d'Idleb et des poches sous contrôle rebelles ou djihadistes. Le président Trump a mis en garde hier la Syrie, la Russie et l'Iran contre une attaque contre la province d'Idleb. Dans un tweet, il a averti que des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. « Ne laissons pas cela se produire », a dit M. Trump. L'Iran avait exprimé son soutien à l'offensive syrienne, disant, je cite, « que la région devait être débarrassée des terroristes ». Selon l'ONU, une offensive contre Idleb pourrait faire jusqu'à 800 000 déplacés et provoquer une catastrophe humanitaire.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'est dit prêt à retourner bientôt à Tripoli. Tripoli, la capitale libyenne qui est en proie à des combats meurtriers. Le ministre de l'Intérieur italien a également lancé une nouvelle charge sur le rôle de la France dans le chaos du pays. l'Italie doit rester protagoniste du processus de stabilisation en Méditerranée, a-t-il déclaré. Matteo Salvini est le patron de l'extrême droite et bien sûr l'homme fort du gouvernement. En Irak, près de 4 millions de personnes déplacées par la guerre avec le groupe djihadiste État islamique sont revenues dans leur foyer. Ce sont les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Début septembre, l'OIM recensait encore près de 2 millions de déplacés, soit le chiffre le plus bas depuis novembre 2014. Bagdad avait proclamé fin 2017 la victoire sur l'État islamique chassé de tous les centres urbains d'Irak. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a déclaré vouloir convoquer une réunion de haut niveau aux Nations Unies sur les massacres de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie, estimant que les responsables devaient être traduits en justice. En 2017, plus de 700 000 musulmans Rohingya ont fui vers le Bangladesh après une offensive de l'armée birmane. Et puis pour finir, pour la première fois, une femme musulmane portant le voile participe à la finale du concours de beauté Miss Angleterre. Sarah Iftekhar, étudiante en droit de 20 ans, est opposée à ce soir à 49 autres jeunes femmes lors de la finale de la compétition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 0,7% pour le second trimestre consécutif. Cette mauvaise performance place Pretoria techniquement en situation de récession pour la deuxième fois en deux ans. D'après l'Office sud-africain de la statistique, la baisse est liée au recul de l'activité dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce et des industries manufacturières et publiques. En revanche, les mines, les finances, l'immobilier et les services ont été les principaux contributeurs de richesses. Le Nigeria a exigé du géant des télécoms sud-africains MTN le paiement de 2 milliards de dollars d'arriérés d'impôts. Néanmoins, le groupe sud-africain pense avoir totalement payé les montants dus. Récemment, la Banque centrale lui a ordonné le rapatriement de plus de 8 milliards de dollars transférés illégalement hors du pays. Elle a épinglé dans la foulée les quatre banques qui ont effectué ces transferts entre 2007 et 2015 et devront payer une amende de 14 millions d'euros. Entre 2013 et 2017, les exportations d'armes de la Chine vers l'Afrique ont enregistré une croissance de 55%. Cet approvisionnement en armes est passé de 8,6% à 17%. Pékin acheminerait ses armes vers plusieurs zones de conflit du continent, notamment en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Djibouti représente une plaque tournante de son commerce grâce à ses installations portuaires.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Liste des lions indomptables, connus pour les éliminations de la CAN 2019.
Oui, pour sa première liste avec les lions indomptables, Clarence Seedorf a convoqué l'attaquant de Wolfsburg, Paul-Georges Ntep, qui a pourtant disputé deux rencontres amicales avec l'équipe de France, c'était en 2015. Hésitant à rejoindre la sélection camerounaise, l'ex-joueur de Rennes figure bien dans la liste définitive pour affronter les Comores en match de qualification pour la prochaine CAN qui débutera en juin prochain. Le joueur camerounais de 26 ans vient d'ailleurs de rejoindre la sélection actuellement en stage au Kenya.
Transfert pour un joueur sénégalais.
Oui, le FC Lorient a annoncé le recrutement de Sidy Sarr comme joueur joker. Le milieu international sénégalais de la Berrichonne de Châteauroux débarque dans le Morbihan sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat. Sachez aussi que Moussa Marega a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021. La saison dernière, l'attaquant avait joué un rôle majeur dans la belle saison de Porto puisqu'il avait inscrit 23 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues.
Du nouveau pour la sélection égyptienne.
Michel Salgado a été nommé sélectionneur adjoint des Pharaons, officialisation par la Fédération égyptienne de football. L'ancien latéral droit du Real Madrid et international espagnol sera le bras droit du sélectionneur mexicain Javier Aguirre et il pourra apporter toute son expérience du haut niveau à Mohamed Salah et ses coéquipiers.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Bénin, les députés de la majorité ont approuvé la loi modifiant le code électoral. Parmi d'autres mesures, il faudra débourser une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions auparavant pour être candidat à une élection présidentielle. Cette loi fait du Bénin le pays africain où il faut payer le plus d'argent pour être candidat à la présidence. Pour décrypter le nouveau code électoral, Raissa Girondin a joint Mathias Oumpé, administrateur du programme de gouvernance politique à l'Open Society Initiative for West Africa.
Donc c'est environ de 30 000 dollars à 500 000 dollars. Pour les élections législatives, la caution est passée de 8 300 000 francs CFA pour une liste présentée aux législatives à 249 millions de francs CFA. Donc c'est environ de 15 000 dollars à environ 500 000 dollars pour présenter une liste aux élections législatives. Le deuxième élément, c'est l'introduction d'un seuil pour les élections législatives. C'est-à-dire qu'à la fin des élections, seules les listes qui auraient recueilli au moins 10% des votes au niveau national seront distribuées les sièges du Parlement. Il n'y avait pas de seuil avant. Et il n'y a pas de seuil dans beaucoup de démocraties à travers le monde. Et la troisième disposition pour être candidat à toutes les élections, maintenant, il faut montrer qu'on est en règle vis-à-vis du fisc. Et donc c'est ça qui est comme un critère supplémentaire pour être candidat. Et pour finir, les alliances ne sont plus acceptées pour aller aux élections législatives. Il n'y a que les partis unitaires qui sont autorisés à présenter des listes pour les élections législatives.
Que l'opposition narque la plupart des mesures, elles ont été prises pour écarter de potentiels candidats. La majorité, elle, dit que c'est pour limiter le nombre de candidatures. Mais que faut-il en penser ?
La quasi-totalité de ces mesures ont pour objectif de restreindre l'accès à la candidature, ou du moins pour élever des obstacles sur le chemin de ceux qui voudraient être candidats aux élections nationales au Bénin. Et donc, de ce point de vue, c'est facile pour l'opposition de les présenter comme des mesures qui empêchent, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition.
Et qu'en est-il des anciens présidents ?
Alors, le bruit avait couru qu'il s'apprêtait à introduire une disposition pour retirer le statut d'ancien président ceux parmi eux qui voudraient se présenter à des élections nationales. Je crois que finalement, cette idée a été abandonnée et donc, pour le moment, les anciens présidents peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter encore à des élections au Bénin.
Le vote de cette loi par le Parlement, est-ce qu'elle pourrait avoir une incidence sur l'ambiance même politique du pays ?
Absolument. Lorsque vous initiez des lois pour restreindre l'accès aux postes électifs à des citoyens, il n'y a pas de doute que d'abord les acteurs de l'opposition seront mécontents et seront les premiers à s'exprimer, mais également tous les autres citoyens qui ont envie simplement d'aller s'essayer, n'est-ce pas, aux élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont déjà exprimés pour leur désir, n'est-ce pas, d'aller participer aux élections législatives, par exemple, qui auront lieu en mars, donc l'année prochaine. Et donc, tous ceux-là, aujourd'hui, sont bloqués par cette disposition. Ça servira de source de remous politique d'ici jusqu'aux élections prochaines.
Mathias Oumpé, administrateur du programme de gouvernement de gouvernance politique à l'OCIWA, il était joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, la HAMA, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, a suspendu pour 3 mois le journal Al-Shahed, un journal bilingue, une suspension pour diffamation. C'est le deuxième média à être sanctionné par cet organe de régulation sous la 4e République. De Djamena, le reportage de notre correspondant André Komadjingar.
Née sur les cendres du Haut Conseil de la Communication sous la défunte 3e République, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel est l'une, sinon la première institution issue de la nouvelle constitution consacrant la 4e République à être dotée de plein pouvoir. Elle a vu ses attributions renforcées dans l'ordonnance 16, signée le 31 mai 2018 par le président intégral Idriss Déby Itno. Plusieurs médias privés ont déjà eu maille à partir avec cet organe de régulation. La dernière en date est celle de la suspension du journal bilingue Al-Shahed. Accusé d'avoir publié de fausses nouvelles dans sa parution du 1er août dernier, qui, selon la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, ne contient aucun fait ou élément matériel permettant de publier des propos accusateurs à l'encontre des pays qui entretiennent des relations de coopération et d'amitié avec le Tchad, l'hebdomadaire Al-Shahed est suspendu pour 3 mois. Pour les responsables du dit journal, cette décision est un règlement de compte. Jules Daniel Yunkilam en est le rédacteur en chef section française.
Au lieu de se contenter de son rôle de régulation des médias, la Hamas s'érige en un tribunal qui désormais a pour principale mission de régler les comptes des journaux d'une manière générale et précisément Al-Shahed qui critique les mauvaises pratiques converties en mode de gouvernance sous ces régimes. C'est malsain qu'un organe de régulation puisse se ridiculiser en prenant de telles décisions.
Pour le secrétaire permanent de l'Odemet, Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, Gual Nanassoum, il y a 2 poids 2 mesures dans la prise de décision de cet organe de régulation.
On a l'impression que la Hama subit des pressions quelque part. Elle n'est pas vraiment indépendante comme son nom l'indique. Il y a des journaux qui mettent dans leur une des photos, à la limite en couleur même, des personnalités du régime qu'on accuse de grands voleurs de la République. Et ces gens-là, la Hama ne les appelle pas pour leur demander de leur donner leur source d'informations et aux petits hebdomadaires qui se battent pour informer le public qu'on demande ces informations.
En prenant de telles décisions contre les médias indépendants, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel a une autre mission, estime Dr Evariste Ngarlom-Tolde, ancien président de l'Union des journalistes tchadiens.
En quelques semaines, 3 décisions inacceptables sont prises. Il faut simplement croire qu'on tend vers le musulman de la presse. Il ne suffit pas d'attaquer, de s'acharner sur un organe de presse simplement parce que telle information a été sensible et qui a été diffusée et qui porte atteinte aux relations diplomatiques entre le Tchad et les pays amis, entre guillemets. Cela n'est pas suffisant pour autant sanctionner un organe de presse. On risque d'arriver à la fermeture des journaux et des radios et ça serait vraiment un recul pour la démocratie au Tchad.
André Kodmadingar, Ndiamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Guinée, une autre terre choisie par la Chine sur le continent pour ses investissements. L'Empire du Milieu a signé plusieurs conventions avec les dirigeants guinéens et intervient dans divers domaines, notamment les mines. Mais la présence de la Chine en Guinée ne fait pas que des heureux. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
La Chine, l'une des nombreuses destinations du président guinéen. Alpha Condé y a obtenu plusieurs accords, des accords économiques mais aussi techniques. L'un des derniers actes officiels entre les deux pays est une assistance pour l'appui à la sécurité alimentaire, chiffrée à 6 millions de dollars et signée samedi en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans le pays, le Made in China est sur presque toutes les lèvres. Mais qu'en disent les Guinéens? D'abord, les réponses de quelques vendeurs rencontrés à Madina, le grand marché de Conakry.
Ils font des commandes que nous autres ne pouvons pas faire. Et quand ils amènent leurs commandes, ils revendent à un prix plus bas que nous on peut revendre ici.
Non, c'est pas la même qualité. Les produits turcs, les produits indes, c'est plus fort que les produits chinois. Comme les pompes, là, ça, les produits turcs, les produits indes, ça absorbe plus que les produits chinois. Quoi.
Chez certains consommateurs de produits chinois, il n'y a pas lieu de se plaindre car il y en a pour toutes les bourses.
Avec la marque chinoise, tout le monde peut avoir actuellement un Android. Même si c'est pas garanti, mais ça me permet de faire beaucoup de choses parce que j'ai pas les moyens de m'offrir un téléphone de grande marque.
Mamadou Saliou évolue dans la vente de téléphones de marque chinoise. Il dit ne pas se sentir protégé par le contrat qu'il a passé avec les Chinois.
Les Chinois avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années n'avons pas un contrat d'exclusivité dans le travail. Il faut à chaque fois avoir un contrat de 2 ans. Dans lequel contrat on te dit clairement que les produits qu'on te fournit, on a la latitude de les fournir à autant d'autres personnes aussi. Ça veut dire que tu n'es pas protégé.
Le secteur minier guinéen est dynamique depuis quelques années et la Chine entend y prendre sa place. En janvier, la société chinoise TBA obtient un accord d'investissement dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Il y a quelques mois seulement, la Guinée et Chalco, filiale du groupe Chinalco, ont signé une convention minière de 15 ans. Vraisemblablement, c'est la conséquence d'un accord cadre de prêt d'un montant de 20 millions de dollars signé l'année dernière entre la Chine et la Guinée. Selon plusieurs sources proches de ce dossier, la Guinée, qui obtient ce financement destiné à la réalisation d'infrastructures, va assurer aux entreprises chinoises des concessions minières au titre de contrepartie. Le chinois en Guinée, c'est aussi l'exploitation de bois dans le sud du pays. La coupe de bois dans cette partie de la Guinée est contestée. Les communautés ont même créé une association. Docteur Mamadi Onivogui est le chargé de communication de Touche pas à ma forêt.
Nous nous sommes rendus compte que dans le contrat, dans le temps du général Ansana Conté, le contrat visait l'exploitation des forêts périurbaines. Mais maintenant, c'est tout dernièrement avec les manques de matières premières que subissait la société. La société aurait demandé au gouvernement guinéen de signer maintenant le protocole d'accord pour l'exploitation des deux forêts classées de Ziyama et de Djéki. C'est ce qui a fait mal à toute la jeunesse guinéenne et plus particulièrement celle de la forêt. D'où la mise en place du collectif Touche pas ma forêt pour défendre les deux forêts.
Ziyama et Djéki sont deux forêts classées. Leurs défenseurs tirent la sonnette d'alarme sur d'éventuels crimes écologiques. D'autres parlent de menaces pour l'écosystème. Sur plus de 200 éléphants, il n'en reste qu'une vingtaine, alerte le porte-parole de Touche pas à ma forêt. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Burkina Faso, une espèce de chenille comestible est revalorisée par les populations de l'ouest du pays durant la saison des pluies. La chenille de karité, ou chitoumou de son nom local, fait la fierté de la région des Hauts Bassins. En fait, tout un festival lui est annuellement dédié. Reportage à Bobo-Dioulasso de notre correspondant Issa Napon.
Prédateur d'un arbre fruitier appelé karité en Afrique de l'Ouest, la chenille ou chitoumou, dans le dialecte local, fait l'objet d'une véritable fierté au sein des populations de la région des Hauts Bassins. Pour revaloriser cette espèce de chenille comestible, une association s'active depuis une dizaine d'années dans cette région. Il s'agit d'une réelle nécessité de les mettre en avant, commente l'organisateur Lassina Sanou, président de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso.
C'est le socle de la culture de la région des Hauts Bassins, c'est l'identité de la région des Hauts Bassins. Quand vous parlez de chitoumou, des chenilles de karité au Burkina Faso, immédiatement les gens font référence à Bobo-Dioulasso. C'est notre identité culturelle. Donc ce qui veut dire que c'est un aliment qui est très important, qui représente toute la région des Hauts Bassins, d'où l'importance que nous lui accordons en organisant cette fête.
Le chitoumou, chenille de karité, est l'aliment le plus prisé dans cette région. Quand arrivent les premières pluies de la saison, la collecte peut ainsi s'engager, estime une des transformatrices présentes au festival. Pour Mamine, la quarantaine est bien entamée, le chitoumou est un concentré de vertus. Les vertus de chitoumou sont nombreuses. On les consomme par exemple pour soigner les maladies liées à la tension artérielle, les ulcères, sous forme séchée ou pas, ou encore en poudre. Ils représentent aussi un complément alimentaire pour les enfants et nous les vendons dans des récipients entre 1250 et 1500 francs CFA, selon la quantité. Autant de vertus qui font rappeler la nécessité de consolider ce type d'action culturelle, bénéfique à tout point de vue, affirme le professeur Babou Niang, président de l'association des détenteurs des savoirs occultes africains.
Même les gens ceux qui l'ont initié ne savent pas exactement le bonheur qu'ils sont en train d'apporter à l'Afrique. Le chitoumou, sur le plan scientifique aujourd'hui, est reconnu sur le plan mondial que ça peut traiter beaucoup de maladies.
Un danger cependant guette ce véritable symbole alimentaire de la ville de Bobo-Dioulasso. Les chenilles se font de plus en plus rares au fil des ans, constate avec anxiété Lassina Sanou.
L'enjeu est plus qu'important pour la région des Hauts Bassins. Il va falloir que les gens prennent conscience du danger qui menace sérieusement les chenilles.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à Peter Henley et Sims. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique.